Radio Classique et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, il est 6h30.
La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, ce n'est pas encore l'Italie, mais la France se cloître un peu plus contre le coronavirus, Marc Bourreau.
1126 cas recensés, 19 morts. Le stade de l'épidémie n'est pas encore franchi. Pas de stade 3, mais un stade 2 rouge vif. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce un durcissement des règles à l'issue d'un conseil de défense à l'Élysée hier soir.
Tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Les préfets, les ministères feront remonter une liste d'événements considérés comme utiles à la vie de la nation. Les manifestations en feront partie, tout comme les concours par exemple, ou encore le recours au transport en commun, qui sont des activités utiles à l'activité de la nation.
Alors les rencontres sportives seront-elles elles aussi concernées? Réunion ce matin au ministère des Sports, certains matchs de Ligue 1, la rencontre de Ligue des Champions PSG Dortmund pourrait se dérouler à huis clos. Un grand point d'interrogation aussi pour les salles de spectacle, Victoire Fort.
Les théâtres de l'Odéon et du Châtelet à Paris, les opéras de Lyon ou de Bordeaux, le Silo à Marseille. Voilà des salles de spectacle qui devront annuler à présent leurs représentations. Seuls les rassemblements utiles à la vie de la nation seront maintenus. Les concours, les transports, les manifestations. Le ministre de la Santé le répète, il faut freiner l'entrée du virus là où il est absent, freiner sa diffusion là où il circule. Alors, pour préparer le système de santé, de nouvelles dispositions, un décret pour faciliter la téléconsultation pour les généralistes et un autre pour déplafonner les heures supplémentaires des soignants dans les hôpitaux, des soignants largement mis à contribution alors que le stade 3 n'a pas encore été déclenché.
Ce matin, 300 000 élèves ne prendront pas le chemin de l'école. Les établissements scolaires portent close dans les zones les plus touchées, le Haut-Rhin, l'Oise, à Ajaccio, en Corse. Inquiétude à l'Assemblée nationale où 4 élus sont désormais contaminés. Quelles conséquences enfin pour les acteurs économiques? Une réunion est prévue ce matin à Bercy.
Ouais, on donnera tous les détails dans le journal de l'économie dans 10 minutes. En attendant, Marc Bourreau, le ministère de la Santé trouve la parade face aux pénuries de gel hydroalcoolique.
Ouais, la demande explose, Dimitri, multipliée par 20 ces dernières semaines. Le gouvernement vient donc d'autoriser les pharmaciens à fabriquer eux-mêmes leurs produits. Cela va dans le bon sens pour Philippe Besset de la Fédération des syndicats de pharmacie de France.
La formule est celle de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un mélange de trois solutions, de l'alcool à 95 degrés, de l'eau oxygénée, de la glycérine. C'est une solution qu'on doit ensuite laisser reposer 72 heures. Donc les pharmaciens ne pourront le mettre à disposition du public à partir de jeudi. On a un prix pour 100 millilitres qui est de 3 euros. Et à partir de là, nous pourrons remplir des flacons que nous apporterons les usagers parce que on s'achemine vers une pénurie de ces flacons de 100 millilitres au niveau mondial.
Des propos recueillis par Rémi Pfister.
Situation évidemment sans commune mesure avec ce qui se passe en Italie, où 15 millions d'habitants désormais vivent sous cloche.
Oui, 15 millions d'habitants, c'est un quart de la population placée à l'isolement. De Milan à Venise, l'Italie est devenue ce week-end le deuxième pays le plus contaminé au monde. Plus de 7000 malades, 366 victimes. Depuis hier, les écoles, les musées, les cinémas, certains commerces sont fermés. Les entrées et sorties quasi interdites. Niccolo, étudiant à Parme, devra rester chez lui au moins jusqu'au 3 avril.
C'est pas très drôle de rester enfermé dans la même ville, de pas pouvoir se déplacer. On peut rien faire en plus dans les villes. Le seul problème en fait, c'est le fait que je peux pas voir mes parents. Ça fait déjà 2 semaines là. On s'y attendait pour la Lombardie, mais on s'y attendait pas pour Parme et les autres villes. Dans la ville, aujourd'hui, je suis sorti faire des courses et il y a presque personne dans la rue en fait.
Le témoignage de Niccolo, étudiant à Parme, en Italie.
C'était l'une des images fortes lors de la mobilisation des Gilets jaunes.
Des grilles forcées, un bâtiment dégradé par des cocktails Molotov en décembre 2018. Le procès de l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay démarre aujourd'hui. 4 personnes comparaissent en correctionnel, Eric Cuech.
Une préfecture en feu. L'image avait choqué. Sur les vidéos, des forces de l'ordre en sous-nombre encerclées tentent de défendre le bâtiment face à une foule de gilets jaunes. Ils reçoivent des insultes puis des pierres. Certains sont touchés et blessés. Au même moment, une lueur orangeâtre s'échappe des fenêtres de la préfecture. Des flammes lèchent l'une des façades du bâtiment néoclassique. Des gilets jaunes les nourrissent avec des bouts de bois ou tout ce qui tombe entre leurs mains. Parmi eux, selon l'accusation, les 4 prévenus qui comparaissent aujourd'hui âgés de 21 à 37 ans. Ils sont tous originaires de la région. L'un d'entre eux est également suspecté d'avoir lancé de l'acide en direction des forces de l'ordre lors d'une autre manifestation de gilets jaunes. Tous risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
Les précisions d'Éric Kioch.
Et puis Recep Tayyip Erdogan va-t-il faire plier l'Europe ?
Le président turc est reçu ce soir à Bruxelles. Réunion et deux sujets brûlants. La guerre ouverte entre Ankara et Damas et son corollaire, celui des migrants qui se massent aux portes de l'Europe. Recep Tayyip Erdogan menace de laisser ses frontières ouvertes pour obtenir le soutien de Bruxelles dans le dossier syrien. Bonjour Hugues Baudouin.
Bonjour Marc.
Correspondant de Radio Classique à Bruxelles, à l'instar des migrants à la frontière grecque, le président turc va-t-il tomber sur un mur ?
Oui, la diplomatie européenne s'interroge ce matin. Le président turc vient-il à Bruxelles souffler le chaud ou le froid ? Ce week-end, Erdogan a semblé vouloir apaiser la situation en demandant à ses forces de l'ordre de ne plus laisser passer de migrants en mer Égée. Mais sur la frontière terrestre avec la Grèce, la situation est toujours aussi tendue. Les dirigeants européens tiennent quant à eux un discours inhabituellement ferme. Ils n'entendent pas céder au chantage du leader turc. Dans le même temps, le dialogue, même extrêmement difficile, n'a jamais été rompu avec Ankara. L'Union européenne a proposer une enveloppe supplémentaire de 500 millions d'euros pour aider les Turcs à accueillir les réfugiés syriens. Un geste qui s'ajoute aux 4 milliards déjà versés sur les 6 promis. Et cette nuit, l'Allemagne a annoncé que l'Europe pourrait accueillir 1500 migrants, des enfants malades essentiellement, actuellement hébergés dans des camps en Grèce. Mais cela ne suffira probablement pas à satisfaire Erdogan, dont la première priorité est d'obtenir le soutien des Européens à ses opérations militaires dans le nord de la Syrie, un sujet sur lequel les 27 ne bougeront certainement pas, la situation sur place s'apparentant, selon eux, à un véritable bourbier.
Merci Hugues Baudouin, en direct de Bruxelles pour Radio Classique.
C'était le journal de Marc Bourreau. Merci Marc. Tout de suite sur Radio Classique, le kiosque éco.